Place du Vivant, Montjoux, Rémusat, Buis-les-Baronnies, Parc naturel régional des Baronnies provençales. 9 novembre 2022. Temps très nuageux, avec orage annoncé pour la journée. Aujourd'hui à nouveau, en route pour plusieurs villages arpentés ou habités par les précédentes résidences de recherche-création depuis 2019. Et cette fois particulièrement, nous voilà sur la route, tant le Parc naturel régional des Baronnies provençales a été largement visité. Vesques, Montjoux, Tessières, Rémusat, Buis-les-Baronnies. Sur la route, continuons en haïku, mais avec ceux de Jacques Kerouac. Les haïkus de la route particulièrement, datant de l'été 1957 et traduits par Bertrand Agostini. Numéro 279. Qui se soucie des arbres abattus de Provence? Une route est une route. Numéro 293. Quel réveil pour ce papillon quand quelqu'un sonnera cette cloche. Celui-ci aurait pu rythmer le récit de l'arrêt à Vesque, puisque la balade dans ces dédales de ruelles nous a fait rencontrer des portes étonnantes, avec des dispositifs de sonnettes par clochette notamment, ou encore une entrée avec un rideau de petites chaînettes se frottant doucement avec les courants d'air. Mais la route est longue et l'orage menace. Direction Montjoux, 460 mètres d'altitude, il est 10h30.
Nous voici en place, tout en haut du village, sur la place parking en forme de triangle, à l'orée des chemins de randonnée de la montagne de la Lance. Le chemin du Pré de l'Or, à gauche, celui des Catinous, à droite. Du lichen jaune et gris clair s'est immiscé dans les lettres du panneau indicatif. Quand on se retourne, cette place offre une perspective sur tout le village en contrebas, à commencer par la placette de l'église Saint-Étienne. Au croisement, juste au-dessus du lavoir, un panneau d'information marqué par une feuille de format A4 sans logo. Eau potable, retour à la normale. En gras, nous pouvons à nouveau consommer l'eau de la commune, des explications et, très cordialement, signé du maire. En descendant la rue du Lavoir, puis en prenant sur la gauche le long du ravin de la Reille, à sec après cet été-automne, on arrive au pont sur la rivière et à l'arrêt de car du village. Sur son montant, à 1,50 m de hauteur environ, un morceau de bois indique « cru ».
Le tour est fait. Retour sur la place parking qui compte un banc bleu en bois, des chaises en plastique retournées, quelques architectures de pierre dans des états divers et un banc en pierre et cailloux. Une vieille dame y est assise. Derrière le banc, de l'autre côté du muret, quelqu'un frappe régulièrement des pierres. La vieille dame a posé contre elle deux cannes en bois, sculptées par son mari. Elle s'y agrippe avec délicatesse, afin de montrer combien elle s'apparie bien avec ses mains, particulièrement celle en bois imputrescible avec sa poignée torsadée. Toutes les deux adhèrent bien au sol grâce à leur embout en caoutchouc noir. Lors d'un récent séjour à l'hôpital, elle a failli les perdre. Elle y tient et les retient près d'elle. Plus tard, quand elle remontera le sentier vers sa maison, elle pourra compter sur l'une comme sur l'autre pour avancer sur les graviers qui bordent la maison de son fils, le sculpteur de pierre.
Nous poussons d'ailleurs le portail de son jardin sur ses recommandations. Il est à son atelier, dans la poussière, mais arrête volontiers les coups de burin pour accueillir les visiteurs et leur présenter sa création du moment. Son ultime création à quelques mois de la retraite. Et il passera sans souci à autre chose, car son métier, certes passion, lui a déjà bien endommagé la santé. De l'atelier, on passe au chantier à ciel ouvert. Et pour cause, cette ultime création est une borie, soit une petite hutte ou cabane ronde en pierre sèche, typique de la région. À sa borie, il ne manque plus que le faîte du toit en dôme. L'artiste artisan montre, invite à regarder, à entrer, à mesurer l'épaisseur quasi monumentale des pierres, le travail que cela a nécessité, etc. Avec ses grandes mains recouvertes de poussière blanche. Ses cheveux ne sont pas en reste, trace des coups de burin sur la pierre. Il raconte et impressionne. Pour finir, il nous montre amusé le nid d'oiseau déjà installé à l'entrée.
Direction Rémusat, midi. 448 mètres, quelques gouttes de pluie. Le nom de la commune signifierait « lieu boisé », du latin ramus, rameau, branche. Des hectares d'oliviers précèdent le village, de grands platanes bordent la rue principale, recouvrant les bancs de pierre et de feuilles mortes. Une façade, recouverte de nombreuses silhouettes d'oiseaux en bois peint, attire particulièrement l'attention. Ce sont davantage les rapaces qui sont représentés, plus quelques martinets. Au total, les ailes, avec leur envergure, couvrent une bonne partie de la façade. Un écriteau de bois indique « Maison des vautours ». Tous les volets, bleu ciel, sont fermés. Rémusat est une zone d'observation privilégiée. La densité de rapaces est importante dans les alentours. Nous levons la tête pour en apercevoir, mais c'est ici même, au ras de la place, qu'on trouve le plus beau profil de rapace, sur la devanture d'un restaurant au nom féral, un peu sauvage sur les bords comme la région y invite. En noir et blanc, un portrait de vautour apparaît en médaillon.
Dans les rues adjacentes à cette place parking, un chantier tentaculaire creuse les axes de passage et offre de nouvelles manières de traverser via de petits pontons de tôle. Un cours d'eau ruisselle. Il y a une cabane à oiseaux juste à côté d'une jardinière. Une autre de l'autre côté. Même chose près des volets de la fenêtre voisine, là, sous les combles, plus d'une douzaine de nids d'hirondelles. Des nids en terre cuite sont fixés un peu plus bas, avec de petits perchoirs. Une caméra de surveillance a même été recouverte de brindilles et de fientes. Elle ne doit filmer qu'une sorte d'abstraction floue de la neige. En parcourant du regard les bâtiments autour, d'autres nichoirs encore. Le mortier entre les pierres constitue une multitude d'alvéoles protéiformes. Quand on scrute, plus en détail, on aperçoit de petits caissons en bois et en terre cuite qui nichent sur les façades tout autour de la place.
Ce vivant qui prolifère, de la Borie à Rémusat, ce vivant inexorable résonne entre les bâtiments de la place et les pics rocheux en face, comme un hommage. Et cette place a été nommée Roland, des frères Léon et Georges Roland, deux résistants du village exécutés par les Allemands le 22 août 1944 à Dieulefi. Décidément, déjà hier à Bellecombe, et tout à l'heure, sur la route entre Montjou et Rémusat, à Tessières, au pied du maquis de la Lance, à lire les paroles de leur chant sur l'air de hardis camarades. Les époques sont prochaines qui nous verront victorieux. Nous descendrons dans la plaine comme un torrent furieux. Nous repensons à la résidence d'Anne Dubosc en Chartreuse, lisant Johannes Melsen, un aller simple, récit d'un voyage compliqué, alors qu'elle enquête sur un sentier de huguenots. Johannes Melsen.
L'exode permet à beaucoup d'exercer à nouveau librement un métier, sans que les droits soient réduits à une peau de chagrin. L'exode, c'est les fêtes retrouvées, les baptêmes, les mariages et la dignité des ensevelissements de jour et sans consigne. Une nouvelle harmonie entre la pensée et les actes.
Commentaire d'Anne Dubosc.
Je me rends alors sur le sentier pour contempler les paysages, essayer de m'inventer ceux de l'époque. Le son des pas, le froid, la fatigue ou la faim.
Ce ne sont pas seulement les sentiers ou les paysages qui opèrent comme transducteurs de la mémoire, d'une certaine mémoire, mais aussi, potentiellement, en ces places, des dispositifs et du vivant qui, de concert, redonnent des ailes et du souffle, pour ne pas oublier la barbarie nazie, comme disait le monument des Bauges. En route pour Buis-les-Baronnies, avec en tête un dernier haïku d'été de Kerouac, le numéro 299. Gazouille d'oiseaux, le brouillard voile le portail. Nous y arrivons à 13h30, par un début d'orage, et nous nous arrêtons sur la place du Quinconce, allée parking des Platanes. Entre les rares exposants du marché du jour en train de ranger leurs stands et de plier bagages. La météo, qui avait annoncé des orages toute la matinée, avait fait fuir préventivement la plupart d'entre eux. Si les exposants étaient rares, les Platanes, eux, sur l'allée bien nommée, sont nombreux. Nous en remarquons un particulièrement imposant. Il a comme imbibé une partie de la place. Le bar attenant a fixé à son tronc quelques planchettes en plastique bleu, rose et noir pour y poser son verre. Ses branches se dessinent avec une lumière de néon rose assez puissante. Celle du restaurant à l'ombre des platanes, précisément. Même l'enseigne est fluo. Ambiance de club sur cette place où des enceintes ont d'ailleurs été absorbées par la chair de l'arbre. Les basses font vibrer les feuilles, en même temps que quelques gouttes brillantes tombent. les lumières se diffractent, les écorces de platane qu'on aime retirer dans la cour d'école comme des puzzles qui s'effritent sont ici de petits morceaux roses et violets, une boule à facettes.
Il est 15h, l'orage a cessé. DJ Gentil Alouette peut enfin lancer son set. Un set composé de chants d'oiseaux en voie d'extinction, comme celui de l'Alouette des Champs. Elle a deux couettes, non symétriques mais presque, des lunettes noires et un masque sur le bec, une platine et un mur d'ampli de chaque côté. Il pleut et le platane nous protège. Le propriétaire du restaurant nous dit de ne pas dire qu'il pleut ici. Pourtant, cette pluie en trombe est belle. Elle fait ressortir les champs. L'arbre est luisant et dégouline de rose. Il s'étend sur toute la place avec ses racines. Elle boursoufle le bitume. D'ailleurs, toute la place est plissée par les racines de ce beau platane, formant des dodanes inattendus. Bravo les platanes, vous avez même réussi à faire vivre le bitume. La route et l'été s'arrêtent avec ce bouquet final. Invasion de nids, les champs tuent sortent des platanes. Prolifération.